Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marques engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Cette tenue raconte. Si vous êtes déjà allé faire un tour sur mon compte Instagram perso, vous avez peut-être vu passer un selfie de moi dans l'ascenseur avec une pose caractéristique et ce hashtag « Cette tenue raconte » qui décrit le message porté par ma tenue du jour. Le vêtement est pour moi, avant toute chose, l'exercice d'expression de soi le plus démocratique, offert à toutes et à tous, chaque matin. Et voilà bien un des grands travers du prêt-à-porter et de la fast fashion en particulier. À force de vouloir copier tout le monde et changer de look toutes les 24 heures, on ne sait plus vraiment qui l'on est, ni comment l'exprimer à travers notre style. D'ailleurs, du style, peu de personnes en possèdent, et paradoxalement, plus on s'échine à suivre les comptes de gens qui en ont, plus on se perd en esthétique générique. Parce que le style commence à l'intérieur, par la connaissance de soi, de ce qui nous plaît, de ce qui nous va, de ce dans quoi l'on est à l'aise au monde, mais aussi ce que l'on défend. Des valeurs artistiques, politiques, militante pour la condition féminine ou toute autre forme de justice sociale. Cela passe bien sûr par une esthétique, arborer par exemple un crop top en crochet rose quand on est un homme, mais aussi par des choix fonctionnels, comme ne pas porter de soutien-gorge ou assumer un costume trois pièces n'importe quel jour de l'année, et bien sûr, des choix financiers. Je choisis d'acheter plus cher une matière parce qu'elle est écologique. Je choisis de soutenir une confection équitable pour l'ensemble des parties prenantes. Je choisis de soutenir une marque dont je partage les engagements pour un monde plus juste. Le style, ce sont des dizaines et des dizaines de messages encodés que l'on peut décrypter chez l'autre ou faire passer avant d'ouvrir la bouche. Celui de mes invités du jour ? Il raconte 17 années d'entrepreneuriat et 25 d'amitié. Il raconte que l'on peut monter une marque de mode à succès en ayant grandi dans un milieu populaire, sans lien avec le business ou les vêtements. Il raconte que les enfants que l'on initie à l'art au plus jeune âge sont plus créatifs et plus débrouillards, vraisemblablement plus à même de cultiver l'émerveillement quand ils sont grands. Il raconte que l'on peut s'habiller avec des valeurs philo-éthiques, militantes politiques et artistiques en enfilant une veste holo. Il raconte que même en pleine crise économique, énergétique, d'approvisionnement, de confiance et de sens, il est possible d'être une marque engagée, rentable et pérenne, distribuée par 300 points de vente physiques dans le monde et qui ouvre une deuxième boutique comme un lieu de vie, de partage, aux principes écologiques chevronnés et qui cartonne. Cet épisode raconte Holo par ses fondateurs, Mathieu et Valentin. Bonne écoute!
On a Valentin et Mathieu de la marque Holo à la caserne qui, vous venez de me l'annoncer, connaissaient non pas la caserne pour l'instant, mais le magasin L'Exception et particulièrement la DG Maeva Bessis parce que Holo a un lien avec L'Exception depuis un certain temps du coup.
Tout à fait, ouais. En fait, on a démarré limite avec eux, quasi en même temps qu'eux, je pense, 2 ans après. J'avais rencontré Régis, je dirais en 2009, 2008 ou 2009. Et on lui avait présenté la marque, ils avaient bien accroché et on était revendus chez L'Exception. Et là, ouais, ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans, quoi.
Alors justement, on va remonter un petit peu le fil. J'ai commencé par vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
Je m'appelle Valentin Porcher, je suis cofondateur de Holo et j'habite à Nantes. Voilà, qu'est-ce que je dois dire d'autre ? J'ai 42 ans.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus d'où tu viens et quel a été ton parcours avant Holo ?
En fait, j'ai rencontré Mathieu à la base, on était en BTS communication. à Montreuil. Avant ça, moi, j'avais eu un parcours un peu... déjà un peu en dents de scie, parce qu'en fait, j'avais été... après mon bac, j'avais tenté une école d'art appliqué, qui s'appelle l'école Estienne, où j'avais été refusé. Et donc, en fait, j'ai intégré la fac en éco-gestion, qui n'avait strictement rien à voir avec ce que je voulais faire, mais qui était dans la continuité de mes études, sur lequel j'ai... ça ne m'a pas du tout intéressé. J'ai quand même fait deux ans, mais ça ne m'intéressait pas. Et je suis tombé après en communication avec Mathieu. Voilà. Donc ça, c'était au moment de notre rencontre. Et après ce BTS-là, moi, il s'avère que j'ai arrêté. Donc j'ai fait toute une succession de petits boulots jusqu'à ce qu'on monte la marque deux ans après.
Donc je m'appelle Mathieu, donc je suis le binôme, je suis le deuxième. Et moi, mon parcours, alors avant Holo, bah, comme l'a dit Valentin, on s'est rencontrés en BTS-com. Moi, avant le BTS-com, je me suis un peu perdu. J'ai fait bac général. Et après, je suis allé dans un IUT informatique. Alors pourquoi, je ne sais pas. Parce que j'ai fait, je pense, j'ai fait deux jours de cours. Et après,
c'était à quel endroit?
C'était à Paris. Attends, l'IUT, il devait être dans le 16e. Et j'ai fait deux jours de cours. Et après, pendant un mois, je pipotais mes parents. Je partais le matin, je faisais genre, tu vois, j'allais en cours. Et en fait, je rentrais à la maison. Alors, mon père s'en est aperçu. Et voilà, ça a fait que j'ai fait une année, pas vraiment une année sabbatique, mais j'ai bossé pendant un an. Et après, boum, j'ai réussi à, tu vois, trouver ce fameux BTS communication là. Et là, ça m'allait parfaitement. Mais informatique, je suis incapable de dire ce que je suis allé foutre là-dedans, tu vois.
Au moins, tu t'en es rendu compte assez vite.
Ouais, ouais, très vite.
C'est quoi vos rapports respectifs aux vêtements et votre éducation?
Moi, à la base, j'ai pas forcément de rapport avec le vêtement. J'ai plus de rapport avec l'art. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans une cité à Aubervilliers où à l'époque, la Maladrerie, c'est une cité qu'ils avaient conçue avec énormément d'ateliers d'artistes. Donc, tu avais et des artistes et des photographes et des sculpteurs. Enfin, voilà. Et donc, quand t'es gosse et que tes parents te trimballent un peu d'atelier en atelier, je pense que moi, c'est ma première, tu vois, mon premier rapport avec l'art, c'est à ce moment-là. Pas avec le vêtement. Le vêtement, c'est venu après, quand j'ai rencontré Valentin. Voilà.
Et toi, Valentin, donc pourquoi t'as voulu aller aux arts appliqués? T'avais déjà un truc en tête
Je pense que j'aimais bien le dessin, en fait, et dessiner des typos quand j'étais petit. Et je faisais des grandes fresques aussi, avec plein de personnages quand j'étais plus petit. En fait, même à l'époque, si on doit remonter, en fait, je dessinais tellement bien, entre guillemets, quand j'étais en primaire et au collège, que en fait, le directeur de l'école m'avait sanctionné, comme quoi il disait que c'était mes parents qui faisaient les dessins. Voilà. Donc c'est peut-être par rapport à ça. Après, le rapport qu'il y a avec les vêtements, moi, je pense que j'ai toujours eu un attrait pour ça, et j'ai toujours un peu suivi des courants, que ça soit. Enfin, dans les cheminements différents de ma vie, quoi. En fait, j'étais vraiment hyper streetwear à un moment donné. Et puis après, il y a eu l'époque un peu. J'ai eu une grosse période aussi qui était en relation avec le skate et le roller. Du coup, il y a eu cette période-là. Et une période après, quand on était en BTS, où c'était beaucoup plus les friperies. Donc, c'est un cheminement différent en fonction de nos évolutions, quoi, en fait.
Tu veux dire qu'il y a toujours eu une part d'expression qui passait par le vêtement ou d'identification à un collectif,
je pense,
à un mouvement?
Ouais, je pense.
Et le BTS de communication, quand vous y êtes rentrés respectivement, enfin, vous vous disiez quoi? Que vous alliez faire quoi à partir de là?
Qu'on allait bosser dans la pub. Ouais. En fait, moi, je voulais plutôt être concepteur-rédacteur. Parce que j'avais plus un attrait aussi pour le... En plus du dessin, j'avais, je pense, un attrait pour l'écriture. Donc c'était plus pour me tourner là-dedans, quoi.
Ouais, moi la même. En fait, c'est ça. Normalement, c'était un BTS où tu pouvais justement déboucher sur l'univers de la pub, etc. Et tu sais, le fameux binôme concept rédacteur DA. Mmh. Et en fait, tout le long du BTS, pendant les deux ans, on a eu beaucoup de travaux à faire en binôme pour justement former un peu des genres de team créa, tu vois, dans la pub.
Après, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais en fait, vu qu'on avait fait des études avant, donc lui en informatique et moi à la fac, une fois qu'après moi je me suis arrêté un an de travailler entre la fac et le BTS, où justement j'ai fait des petits boulots, et en fait réintégrer après le système une fois qu'on en est un peu sorti, même quand on est très jeune, même quand On a fait des études dans un bac général, la fac, etc. C'est extrêmement dur, en fait, de réintégrer. Et en fait, j'ai présenté énormément d'écoles. Et en fait, il n'y en a qu'une seule, moi, à l'époque, qui m'a pris, quoi. Parce que, justement, j'étais sorti un petit peu du système, quoi. Voilà. Ça, c'est, je pense que c'est un peu français aussi. On veut que le parcours, il soit toujours un peu rectiligne, quoi. Voilà.
Et alors, tu nous as parlé, Mathieu, de ton éducation à l'art. Toi, Valentin, c'est venu comment, tu vois, l'amour du dessin? Mais est-ce que tes parents t'avaient sensibilisé à ça? T'as grandi dans quel type de milieu?
Mon père faisait beaucoup de dessin. Après, mon frère aussi, parce qu'il est en école d'architecture. Enfin, il a fait une école d'architecture, il est architecte aujourd'hui. Il était très très bon en dessin. Après, nous, on a grandi dans un milieu qui était plus un milieu en rapport avec le social. Donc, mes parents qui militaient dans les associations.
T'as grandi où, toi?
J'ai grandi dans le 93 aussi.
Aussi.
J'ai fait jusqu'à mes 11 ans dans une cité du 93. Alors que mon père était cadre, ma mère était prof d'anglais. Mais du coup, on a eu des grosses difficultés financières qui font qu'on s'est retrouvés à habiter en cité. Après, mes parents, ils ont un parcours qui est issu de l'immigration. Du coup, c'était pas... Enfin, c'est lié aussi à l'arrivée de mon père en France, etc., quoi. Mais du coup, qui a toujours été tourné plus vers le social et vers l'aide aux autres, quoi. Voilà. Donc, pas forcément de rapport avec l'art, en fait.
Et donc, quand vous arrivez donc à vos études, ce BTS de com, c'est là où vous forgez davantage une culture artistique. Parce qu'en fait, on va en parler après, bien sûr, mais il y a plein d'inspirations chez Holo. Vous avez parlé du dessin, mais il y a aussi le son, il y a la photo, il y a la sérigraphie. Enfin, c'est ultra riche. Et ça, quand on n'est pas éduqué à ça, ça requiert de soi-même aller creuser, appartenir à des réseaux, découvrir des gens, être un peu dans des squats ou des vernissages.
Ouais, mais ça,
il y a différentes typologies.
C'est facile quand c'est ta passion. Dès que les choses sont des passions, en fait, t'as pas, c'est même pas forcé, en fait, c'est de l'automatisme.
Qu'est-ce qui n'est pas forcé? Le fait de rencontrer, tu vois, des gens. Comment est-ce qu'en pratique, quand t'es un gamin, enfin. De quel que soit le milieu, tu vois, mais dans une cité, comment est-ce que tu fais pour t'approcher de l'art, en fait, finalement? Est-ce que toi-même, tu vois, t'as fait des choses artistiques en dehors de la création digitale en école? Est-ce que, comment t'as mis les mains dedans?
Ah, mais moi, de toute façon, c'est un peu comme Valentin, bien sûr. Moi, j'ai fait, quand j'étais gosse, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la sculpture sur bois. Enfin, tu vois, j'avais tout un truc où... J'ai eu même, tu vois, toutes les semaines, j'avais un genre de cours de sculpture sur bois où je faisais des trucs de ouf, c'était mortel. Enfin, tu vois, moi, mes parents m'ont vachement éduqué là-dedans. D'accord. Et m'ont donné toutes les possibilités, tu vois, pour, tu sais, dans la plupart des cités. Et attends, nous, la Maladrerie, c'est pas une cité en mode, tu vois, ghetto et compagnie. Hein. C'était une cité très, très cool, en fait. Donc, dedans, t'avais, tu sais, la genre de maison des jeunes. Mm-hmm. Et où là, toutes les semaines, voilà, la MJC, tu peux peindre, tu peux sculpter, tu peux faire de la photo. Il y avait un atelier photo. J'avais remporté un prix, putain, c'était ouf. Quand j'avais 10 ans, tu vois. Donc, non. En fait, très, très vite, moi, je sais que j'ai tout de suite été vite dedans. Et j'avais des amis de mes parents qui étaient artistes. Tu vois, donc ça aide. Ah ouais. Notamment un photographe qui est assez connu, tu vois, qui était un pote de mes parents. Donc, voilà, tu vois, moi, j'ai pas eu à aller chercher, si tu veux, l'art. Je l'ai eu.
Mais tu l'as cultivé après.
Ouais.
Ça, on va y venir. Et alors, micro-parenthèse, je sais pas si toi, t'as des enfants, Mathieu, Valentin, tu me disais en off que t'en as deux. Tu les inities à ça? C'est quoi leur rapport à l'art, à eux?
Eh ben, à un an, c'est assez difficile, on va dire. Ouais. À 4 ans, la plus grande a 4 ans. Du coup, elle est vraiment dans l'apprentissage, là, déjà, des lettres et des chiffres, en fait. C'est très jeune. Hein. Je ne me souviens pas que c'était comme ça pour nous, mais c'est très jeune. Donc, du coup, en fait, ce qui est super, en fait, il y a un programme avec l'école qui est dans plein d'écoles aujourd'hui, c'est de suivre l'évolution d'un bonhomme, en fait. Donc, du coup, on les prend au tout début de la première section de maternelle. Et en fait, toute l'année de la première section, par exemple, de la petite section, on va voir l'évolution d'un bonhomme graphiquement. Et ça, ça va être tout sur toute l'école maternelle. Donc pendant 3 ans, on va avoir l'évolution graphique d'un bonhomme. Après, il peut y avoir d'autres choses. Ça peut être Je sais que moi, ma fille, elle s'appelle Chiloé. En fait, elle ne sait pas faire le C. Donc, c'est la seule lettre de son prénom qu'elle ne sait pas faire et qu'elle la dessine dans l'autre sens. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il y a... J'ai une de mes voisines, c'est une illustratrice. Et en fait, le but, ce serait de... Elle a fait des ateliers aussi avec des enfants. J'aurais envie d'organiser avec elle une sorte de grand moment parent-enfant où on dessinerait une fresque géante sur un thème précis, en fait.
Trop bien, reviens à la fresque.
Avec que les enfants de la rue, quoi.
Ok, bon, j'ai un peu plus de pistes. Du coup, il se passe quoi après ces années de BTS? À quel moment vous dites, tiens, Chamé, donc après avoir fait plusieurs projets ensemble en création digitale, on va se mettre à fabriquer des vêtements et faire une marque? Quelle est la genèse d'Olo?
En fait, nous, quand on était en BTS, déjà, on bossait vraiment tout le temps, tous les deux, quoi. Dans notre classe, c'était organisé un peu en team créa, en binôme. Et du coup, moi, j'étais avec Mathieu tout le temps pendant 2 ans. Donc, on avait vraiment, vraiment l'habitude de bosser ensemble, bien avant même de créer cette entreprise-là. Donc, on se complétait bien, on s'entendait bien. On avait monté différents projets créatifs, même avant de monter cette boîte. Donc,
comme quoi, par exemple?
On faisait des petits courts-métrages, on avait commencé un documentaire sur le hip-hop à l'époque.
À l'arrache production.
Ouais, voilà. On avait monté une petite association avec des potes. Et puis après, on en faisait toutes les campagnes de pub qu'on nous demandait dans le cadre de nos études, quoi. Donc, voilà.
Et alors, l'objet est vêtement. Enfin, c'est quand même particulier, tu vois. À quel moment est-ce que vous êtes tourné vers ça?
Ben, on s'est tourné vers ça parce qu'en fait, on s'est déjà à la fin du BTS, on savait, tu vois, qu'on voulait monter quelque chose. C'était un peu le concept. On savait qu'on voulait à tout prix avoir un truc à nous quelque chose d'artistique où on bosse avec des artistes. Mais on n'avait pas le support, on ne savait pas trop comment le faire, etc. Et tu sais, c'était la mode à cette époque-là. Enfin, la mode. Il y avait énormément de marques de t-shirts graphiques. Et c'est là où on s'est dit, ah mais attends, on devrait faire des t-shirts graphiques, bosser avec des artistes, on met les œuvres sur les t-shirts, et c'est bon, ça va le faire.
Et au début, c'était quoi? Sérigraphie, broderie, peinture, vous aviez choisi quoi?
C'était sérigraphie, essentiellement. Okay. Ouais. On bossait avec un petit atelier de sérigraphie au Lila, et on faisait tout comme ça, quoi. Ouais. Après, broderie, non, tout ça, c'est arrivé bien après, quoi, en fait.
Donc, dans un premier temps, c'était pas juste un one-shot. Vous avez dit, on lance une marque de vêtements et ça commence par les t-shirts, ou bien au contraire, c'était plutôt, on a envie de tester un truc et...
C'était plus, on a envie de tester un truc au départ. T'avais pas la notion de vêtements, il y avait la notion de art, t-shirt.
Ouais.
Et c'était vraiment plus focus là-dessus. Les vêtements, c'est venu, 2 ans après.
Mais pas longtemps après. Ouais.
J'essaye de comprendre parce qu'en fait, ça m'intéresse vachement la façon dont vous êtes passé d'une passion à une entreprise, mais aussi la façon dont vous l'avez structurée. Parce qu'aujourd'hui, Olo, on va en parler, mais c'est une grosse marque. Enfin, c'est une jolie marque qui existe depuis quasi 17 ans, c'est ça maintenant? Et donc, pour l'avoir structuré en n'ayant pas de bagage entrepreneurial, tu parlais du fait que l'école te formate vachement. Vous êtes passé par tout un tas de voies collatérales. Et pour autant, ça fonctionne. Donc, comment ça se passe à partir de là? Par exemple, question bête, mais vous faites comment pour commander les t-shirts et ensuite pour les distribuer? Il n'y a pas Internet au départ, beaucoup moins que maintenant en termes de e-commerce. Donc, c'est quoi votre stratégie de lancement? Comment est-ce que vous vous constituez ce nom et cette marque?
Au tout début, on l'a fait de façon un peu... comme on avait monté l'asso, tu vois, à l'arrache production pour nos courts-métrages, là, on s'est dit, on ne va pas monter une asso, on va monter une boîte. On s'est renseigné, on est allé au tribunal de commerce, là, je ne sais pas quoi, tu vois, créer une entreprise. Et c'est là où on a rencontré différents intervenants qui nous ont dit « Ah, il y a un truc qui s'appelle le défi jeune. »
On s'est fait aider, ouais.
Vous pouvez présenter votre dossier, ce que vous voulez faire. Vous pourrez peut-être avoir des aides.
Mm-hmm.
Parce qu'alors nous, on a vraiment démarré avec rien du tout.
Ouais.
On avait mis 1000 balles chacun. Tu vois, au tout début, on avait mis 1000 euros. Donc, que dalle, tu vois, ne serait-ce que se payer 6 modèles de t-shirts avec des petites quantités, tu vois. Donc, on avait participé à ce truc-là, le défi jeune, qu'on a eu.
Donc, et c'était quoi, un prix? Vous avez gagné
un
prix?
Ouais, c'était un prix.
Ouais, en fait, Défi Jeune, c'est un concours qui est organisé par Jeunesse et Sport, en fait, à la base. Et donc, nous, vu que Mathieu, à l'époque, habitait, quand on présentait ça au tout début de la boîte, il habitait avec ses parents dans le 94.
Ah oui, ouais.
Et donc, du coup, on a présenté Défi Jeune de Créteil.
À Créteil.
Et il s'avère qu'on a gagné, je crois, le premier prix de la création d'entreprise, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ça nous a apporté ça, plus un prêt à taux zéro, plus différents trucs. Ça nous a apporté le capital de départ pour au moins lancer. Et à l'époque, on avait lancé 1600 ou 1800 ouais. t-shirts.
D'accord. Et puis, on avait eu, ça nous avait permis aussi de se payer un site. Parce que tu ouais. vois, le concept, c'était de D'accord. vendre sur le net.
Ok. Ouais. Donc, au départ, la distribution, elle était là. Et en physique aussi, ou non ? Vous avez fait des événements. Pas de donc, physique. Vous avez écoulé tous vos t-shirts ?
Pas du tout. Pendant 2-3 ans, il nous en restait de ces t-shirts, je crois.
Ouais.
Ok. Ouais. Et c'était quoi qui avait dessus la sérigraphie, le premier artiste en collab ?
Très bonne question. On a eu G-Prod Design.
On avait Raphaël Roucoute.
Ils avaient des noms un peu.
Ouais, en fait ça, il s'avère que en fait, quand on a monté ce site internet-là, on est passé juste après ou au même moment qu'une petite vague de start-up qui s'était montée, dont il y avait une marque qui s'appelait Dada One, qui était ici à Paris dans le 10e aussi, je crois. Et c'est drôle parce que maintenant, c'est un de mes voisins à Nantes, quoi. Voilà.
Mais, il est épicier.
Il est épicier maintenant, ouais, tout à fait. Mais du coup, c'est... C'est lui aussi avait une marque de t-shirt graphique qui fonctionnait très bien. Et c'était un peu l'après site comme La Fraise ou des choses comme ça qui ont vachement bien fonctionné aussi. Donc oui, nous, ça, on vendait essentiellement sur Internet. Après, faut pas se mentir, on vendait extrêmement mal, quoi.
Ouais.
Ouais. En fait, je pense que tu vois, la première année, on a commencé à se dire ça va être compliqué. Tu vois, va falloir se démarquer, va falloir être visible. C'est chaud, quoi. C'était chaud. Les débuts étaient compliqués.
Après, c'est pas nous, on bossait à côté. On n'y jouait pas notre vie non plus.
Voilà. Hein. Tu vois, c'est là, pour le coup, on n'était pas à fond dedans. C'était vraiment...
À quel moment vous avez commencé à vraiment vous intéresser aux vêtements ? Parce qu'après, vous avez développé différents types de produits. Et aujourd'hui, vous avez un vestiaire complet. Vous êtes ultra attentif aux coupes. C'est des fringues super quali, en fait. Holo, vous faites peu de collections. C'est des fringues qui sont hyper intemporelles, même si elles ont du caractère en termes esthétiques. Donc, petit à petit, comment vous cultivez sur les coupes, les matières ? L'esthétique que vous
Alors,
voulez.
Alors, déjà, comment on en est arrivé aux vêtements, c'est assez simple. En fait, au bout de 2-3 ans où tu fais des t-shirts en collab avec des artistes,
ouais.
t'apportes pas grand-chose personnellement.
Donc, aux artistes ou aux gens qui achètent
nous. Ah, ouais, d'accord. Nous, tu vois, ça nous suffisait pas.
Tu veux juste dire que t'avais besoin de créer, toi ?
Ah oui.
J'avais fait des modèles, moi aussi. J'avais dessiné des modèles.
T'avais ça. T'avais aussi l'envie. Nous, on avait l'envie, tu vois, de créer aussi nous-mêmes. Et c'est là où on s'est dit, nous, la part qu'on va avoir dans la créa, c'est qu'on va designer tout un vestiaire. On continuera de faire des collabs artistes, mais par contre, on va se mettre à faire des vêtements aussi pour apporter la touch, tu vois, la petite touche de créa qui nous manque à nous, quoi.
Je dirais que je pense que ça n'a pas été hyper stratégique. Hein, on l'a pas vraiment...
Franchement,
on avait 25 ans, on n'a pas trop réfléchi, on a fait que ce qu'on a voulu, en fait. Hein. Tiens, vas-y, si on se lançait à faire des polos, des suites ou...
Des chemises.
Ok, vas-y, on y va. C'est pas...
Donc là, comment vous faites ? Vous faites du shopping chez d'autres marques ou dans les boutiques vintage pour trouver des patrons qui vous plaisent ? Vous dessinez au feeling ?
Ouais, c'est ça.
Et à l'époque, c'est quoi votre parti pris en termes de valeur de marque, tu vois ? Est-ce que vous faites déjà gaffe aux matières que vous choisissez, aux juste les ateliers de confection, tu vois ? Parce que c'est une chose de sérigraphier les t-shirts que tu commandes finis à Paris, mais c'en est une autre de développer complètement.
Ouais. Mais ça, de toute façon, c'était le point de... C'est le point d'honneur qu'on avait dès le départ. Hein. Tu vois, dès qu'on a pu déjà passer tous les t-shirts en coton organique certifié GOTS, on l'a fait très, très vite, ça.
C'était en 2008, ouais. Je pense que c'était comme ça déjà.
Et t'avais déjà la fab de la sweaterie et de la... tout ce qui est jersey molle.
Au même endroit qu'aujourd'hui.
Tout était au Portugal et on est resté au Portugal, tu vois. On n'a pas du tout voulu aller ailleurs.
Et ça, par exemple, tu dirais que c'est du bon sens. Ça vient de ton éducation, enfin des valeurs sociales, Valentin, avec lesquelles tu as grandi. Est-ce que vous aviez déjà notion, je ne sais pas moi, c'est idiot, mais je pense que la majorité des gens ne savent pas que le coton, ça peut exploiter des enfants en Ouzbékistan, qu'il y a des quantités de pesticides.
Ça, on le savait déjà. Hein.
D'accord, donc ça, vous le saviez. Vous étiez quand même cultivé sur le truc.
Ça, on le savait.
Après, moi, je pense que c'est de ça... Ça date d'assez longtemps. Je pense que... Après, chez moi, ça a été assez politique aussi. Donc, je pense que dès que j'ai eu 18 ans et que j'ai voté pour des partis qui me ressemblaient, et qui était forcément en rapport avec la nature, quoi.
Ok.
Et après, vraiment, le vrai changement, je pense que c'était quand j'avais vu le documentaire sur d'Al Gore à l'époque. Donc, c'est vraiment hyper, hyper vieux aussi, hein, qui traitait déjà du réchauffement climatique et tout ça, quoi. Donc,
Ok. Et à partir de là, donc, sur la base de ces principes, pareil, comment est-ce que tu démarches tes premiers ateliers de confection ? Tu vois, le Portugal, vous avez décroché au téléphone, vous avez pris la route.
Ça, c'est autre chose.
Comment ?
Non, ça, c'est... non, le Portugal, on a été mis en relation par quelqu'un. Donc ça a simplifié un peu la donne. T'as quelqu'un qui nous a mis directement en relation avec un atelier. On est allé au Portugal, on les a rencontrés. Et ensuite, eux nous ont fait rencontrer d'autres ateliers portugais spécialisés chemises, chemisettes, tu vois. Là-dessus, on a eu de la chance, on n'a pas eu à prendre la camionnette ou la voiture, tu vois, aller se faire le tour du Portugal.
Ça aurait été cool parce que, il me semble, on va en parler après, mais que vous êtes un peu des bourlingueurs tous les deux et que ça participe justement à la richesse de la marque, à ce que vous avez envie de transmettre en termes de juste diversité, beauté des paysages. Et en tout cas, c'est comme ça que je le perçois.
Ouais, mais t'as raison.
Après, au Portugal, là où on fabrique, en fait, dans le nord du Portugal, c'est multitude d'usines spécialisées dans des vêtements différents, quoi. Et qui sont sur un périmètre très restreint, quoi. Donc en soi, je vais pas dire qu'ils sont tous potes, mais quand même, quoi, ils partent en vacances quand même ensemble des fois. Donc c'est des gens qui se côtoient depuis même avant de monter leurs entreprises. Je pense qu'ils se connaissaient déjà, quoi. Donc ça facilite le truc aussi.
Donc s'il y en a un qui t'a la bonne, tu peux lui demander de te recommander quelqu'un d'autre.
Ouais, okay. Ouais, à fond.
Alors, du coup, ça ressemblait à quoi vos premières collections et comment est-ce que vous avez étoffé le vestiaire au fur et à mesure? Des années.
Alors, au départ, tu avais t-shirt sweat. Et ensuite, quand on a étoffé un peu, on avait fait, je me rappelle, deux manteaux. Tu avais deux manteaux
chemises
et des chemises. Aussi. C'était de l'uni à l'origine. Mais tu vois, on avait quand même voulu des coupes. Moi, je me rappelle qu'on s'était... on avait voulu se démarquer, surtout sur la forme des poches, les rabats de poches. Tu sais, on dessinait des rabats un peu différents de ce qu'on pouvait trouver... chez les autres, en fait. On avait essayé de revisiter pas forcément les patronages, mais plus, tu sais, les petits détails. Les poches, le col, ce genre de petites choses.
Ouais, et après, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, nous, on était au début du coton bio, on va dire. Et quand on lançait les premiers modèles de chemises ou de pulls, énormément de problèmes de confection,
les
tissus, ça allait pas. Enfin, la qualité, elle était pas du tout au rendez-vous.
Mais tu veux dire relative au coton bio ?
Ouais, relative au coton bio. Ouais.
Ok.
Ouais, relative au coton bio, c'était pas du tout abouti. Du coup, même nous, on jouait un peu notre argent parce qu'en fait, on avait des problèmes de fabrication derrière. Et puis, on avait des soucis de distribution parce qu'à cette époque-là, on avait déjà commencé à vendre dans quelques boutiques et où on avait les minima de production à réaliser quand même avec très peu de commandes sur certains trucs. Donc, on y allait au bluff, on disait, vas-y, on fabrique quand même et puis on verra comment on est cool, quoi.
Et du coup, vous êtes retrouvé avec beaucoup d'invendus sur les bras ou de stock de...
On jouait, on sautait sans parachute, quoi.
Ouais.
Directement,
ouais.
Quoi. On se disait, vas-y, on fait, et puis on trouvera une solution plus tard. Et d'ailleurs, souvent, c'est deux, trois fois, c'est nos potes qui ont dû
nous aider.
Ont dû assurer le coup en nous prêtant de l'argent parce qu'on n'allait pas, y arriver, quoi. Ouais.
Vous vous êtes payé à partir de quand ?
6 ans.
6 ans après ?
Au bout de 6 ans.
Donc c'était un parti pris, même te dire on se paye pas 500 balles.
Ouais, c'était un parti pris. Ça, c'était un vrai parti pris de se dire qu'on veut pas que ça soit en dents de scie et que la première fois où on va toucher de l'argent, ça pourra faire que monter.
Okay.
Et donc le premier billet en effet qu'on s'est fait, c'est 500 euros.
Ouais. On était un bon salaire de 500 euros par mois pendant un an, je dirais.
Ouais. Qu'on l'a cumulé après avec le RSA parce que on était.
Oui, parce que vous n'aviez pas la possibilité de bosser à côté au bout de 6 ans. Enfin...
Non.
On a bossé les premières années, mais quand, en l'occurrence, on s'est payé, c'est vrai que ça faisait 1 ou 2 ans qu'on ne travaillait plus. Hein.
Donc, ça, il y avait un backup avec vos moitiés ou vos potes, du coup.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Ça s'est fait comme ça.
Ok.
Ah ouais, on a eu la chance d'être bien entouré. Ouais. T'avais l'entourage qui aidait un peu quand même, donc c'était cool. Et en fait, ouais, nos potes, au départ, ont vraiment joué le rôle de banque, tu vois.
Pour
big
acheter,
up
dire,
les banques.
Les matières ou ce genre de choses.
Pour payer les fournisseurs.
Pour tout.
Il nous fallait de l'argent.
Les banques, quand tu débutes, elles te prêtent pas.
Surtout dans le textile, ouais.
Ouais.
C'était. Donc en fait, les banques, c'était nos potes. Ouais.
Comment est-ce que vous avez développé la notoriété? Donc, les 6 premières années galères, et après, on peut peut-être faire le point sur aujourd'hui. Holo, si vous pouvez nous donner un ordre d'idée de nombre de gens qui bossent avec vous, du nombre de boutiques qui vous revendent, enfin, qu'on ait un ordre d'idée de la marque. Après, je ne sais pas si vous voulez partager une fourchette de chiffre d'affaires. Ou...
Aujourd'hui, on est... Je dirais qu'en interne, on doit être à peu près... Bon, après, ça fluctue parce que du coup, dedans, il peut y avoir aussi des alternants. Mais bon, on est à peu près 8 personnes et on est revendu à peu près dans 300 boutiques.
Donc en France et à l'étranger.
En France et à l'étranger. Aujourd'hui, je dirais que la majorité des magasins sont quand même à l'étranger. Mm-hmm. Et c'est les marchés qui sont en plus forte croissance aussi.
C'est quoi les pays?
Espagne, Allemagne, Italie, Belgique, un peu d'Angleterre, Belgique,
Corée,
un peu de Japon, un peu d'États-Unis, voilà quoi.
Et donc ça, c'est des marchés que vous êtes allés chercher sur des salons, tu vois, comment est-ce que vous vous êtes fait connaître?
Ça, c'est des marchés qu'on est allés chercher sur des salons, et d'ailleurs, tu vois, là, au moment où on te parle, notre responsable commercial, Alex, il est en ce moment même à Florence, au Pitti Uomo. En train de présenter la collection de l'été de l'année prochaine. Et le Pitti Uomo, bah, ça fait partie des bons salons, tu vois, où justement tu présentes vraiment ton travail et puis où il y a justement les acheteurs du monde entier.
Ouais, donc il y a vraiment une stratégie qui était mixte parce que vous êtes aussi vachement présent sur le web. Aujourd'hui, ça répartit comment en termes de pourcentage de CA entre le digital et les boutiques?
Moi, je dirais que tu es 30% sur le digital et 70% sur la vente physique.
Ah ouais. D'accord. Et ben on va parler de votre boutique en propre après, enfin vos boutiques en propre. Dans votre réseau de partenaires de confection, du coup, il y a des gens, enfin, c'est plutôt des gens avec qui vous êtes restés fidèles dans la production.
On a toujours les mêmes. Ouais, toujours.
Malgré le fait que vous ayez diversifié, parce qu'aujourd'hui, donc, dans votre vestiaire complet, il y a quoi? Vous avez rajouté tous les bas, il y a une gamme de maillots aussi.
Ouais, on a tout sauf les chaussures et les sous-vêtements. Donc, on a des casquettes, bonnets, écharpes, jusque, enfin, pulls, chemises, t-shirts, pantalons, shorts. Ouais.
Et donc, masculin, féminin?
Ouais, on tend à être mixte quand même. Donc, on a essayé de développer des coupes qui soient plus unisexes. Donc, c'était pas la volonté dès le départ. C'était pas une marque à tendance mixte, mais ça l'est devenu il y a quelques années. Donc, je dirais pas qu'aujourd'hui, tout est à 100% mixte, mais ça y tend, en tout cas.
Qu'est-ce qui a évolué dans votre manière de faire depuis toutes ces années, et particulièrement en termes d'engagement, de sourcing, de confection? Bon, déjà, rien que le fait d'être fidèle à ses partenaires de confection, c'est assez dingue sur toutes ces années. Est-ce que vous avez changé de politique, je ne sais pas moi, en termes de quantité, ou alors vous limitez le nombre de refs que vous mettez? Est-ce que vous avez changé de typologie de matière?
Alors, typologie de matière, on n'a jamais changé, mais par contre, là tu as une vraie évolution en ce moment sur ce qui est des fabricants de tissus, et donc c'est vraiment cool.
Tu veux dire qu'il y a plus d'offres responsables?
Voilà, tu vois, donc ça, c'est quand même très, très cool.
Ça peut devenir presque majoritaire maintenant, ouais. Même dans les salons comme Première Vision, ça a vachement, vachement changé.
Donc ça, pour le coup, c'est mortel. Tu vois, on a accès à des matières et on source de toute façon, nous, que des matières comme ça. Donc, on va pas du tout sourcer d'autres matières que ça.
Après, nous, on est limité avec le fait qu'on cherche des fournisseurs de tissus européens, voire en majorité portugais, ou si on ne trouve pas portugais, espagnol ou italien. Donc, ça reste très proche, et qui font des matières responsables. Donc, en soi, on a une offre, enfin, on a des possibilités qui sont quand même assez limitées, quoi. Après, c'est ce qu'on s'impose aussi, hein, mais...
On va en parler du process créatif après, mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que vous partez de la matière pour aller vers le design, ou bien c'est l'inverse?
Non.
Vous dessinez une fringue et vous allez chercher la matière.
Ouais, c'est plus fait dans ce sens-là, où on a déjà l'idée des vêtements, et ensuite on va aller chercher des matières, des tissus qui peuvent correspondre à ce vêtement.
Et ça, vous faites... donc, tu parlais de PV, par exemple, mais c'est principalement sur des salons?
Première Vision, ouais. Bah, c'est principalement sur... ou alors sur place au Portugal. D'accord. Fois, ils ont des showrooms aussi où on peut trouver. Eux-mêmes reçoivent beaucoup, beaucoup de références de tissus. Donc, on complète... Généralement, on fait Première Vision, on complète par ce qu'on trouve là-bas, quoi.
Vous allez souvent les voir, enfin, dans l'année?
On y va entre 2 et 4 fois par an, quoi.
Quand même.
Après, on essaye de limiter à deux fois, c'est bien.
C'est nécessaire, pourquoi ?
Pour l'avion, il ne faut pas trop le prendre.
C'est nécessaire parce que pour le suivi de la fabrication et pour la finalisation, bien comme il faut, des collections, on est obligé d'y aller, en fait, pour expliquer les choses en direct et finaliser les collections avec les fabricants sur place. Eux, ils nous apportent un rôle de conseil qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui.
Tu veux dire qu'il va peaufiner ton design, il va te donner un conseil comment tu mets ta...
Ils vont pas peaufiner le design.
Ils vont pas peaufiner.
Par contre, ils vont te dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable dans ce que tu leur montres. Là, ils vont te dire, ah non, ça, tu devrais plus faire ça parce que ça, on ne va pas y arriver. Ou ça, ça va dégorger. Ou ça, la sérigraphie sur de la flannelle, ça ne va pas tenir.
Ils t'évitent tes protos ratés, quoi.
Ouais, carrément.
Mais ça n'empêche qu'on en a.
Ils sont quand même des fois ratés. Hein.
On en a.
Il faudrait une petite section, un peu comme les légumes moches, les protos.
Mais tu sais, on devrait faire, on aurait pu faire des portants, tu sais, en gardant tous les protos un peu.
Mais ça, après, il faudrait que ça soit des gens qui ont des très grands bras ou des choses comme ça, quoi. Si vous avez des très grands bras, vous pouvez porter certains
fois,
plus, 20 cm de plus que la moyenne.
Des pantalons, tu sais, ils nous ont fait des pantalons, des fois, c'est des pantacours. Tu sais, il manque 15 cm de longueur de pantalon. Shooting, t'es là, tu fais waouh.
Tu vois, pour les extrêmes de la courbe de Gauss, t'as peut-être des gens qui ont des super bras longs ou qui font faire des ourlets de 15 cm, sait-on jamais.
Ouais. Ou très court mais très large.
Ou alors tu fais un peu en mode free size, quoi. Tu fais sinon de l'upcycling avec tes invendus qui sont pas, dont la taille est pas adaptée.
Ouais, on pourrait. Mais ça, d'ailleurs, tu vois, nous, on fait très gaffe à ça, là. Tu sais, la surproduction et compagnie, hein, nous, on est des psychopathes là-dessus. Sur les quantités, sur ce qu'on fait fabriquer, etc.
Comment vous faites alors ? Parce que vous faites pas de préco autant que ça, vous ?
Ah bah si. Nous, justement, t'as les précommandes des revendeurs.
D'accord.
Et après, t'as juste notre précommande holo à nous pour le site web et pour les deux boutiques.
Ah oui, non mais précommande par rapport à vos fournisseurs. Mais est-ce que vous lancez des articles en précommande en B2C ?
Non.
Eh oui, c'est ça.
Non.
Parce que là, t'es vraiment au plus proche de tes quantités.
Ouais,
mais donc, quand tu dis précommande, comment tu fais pour savoir si ton distributeur coréen, il va vouloir 50 futs ou 12?
Ah, mais il t'envoie,
12.
T'as son bon de commande.
D'accord, c'est lui qui sait à peu près.
Oui. Okay. Il nous envoie sa commande. Je veux tant de pantalons dans telle taille, telle taille, telle taille. Et nous, on fabrique.
On commande au plus juste. Nous, on est plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire qu'en cours de saison, on est en rupture de stock.
D'accord.
En fait, on commande pas assez ou alors. On se retrouve au bout de un mois à pu avoir de casquettes comme là, parce qu'en fait, ils ont tous demandé des casquettes et ils nous ont plié tout, quoi. Voilà. Sans avoir possibilité de reproduire aussi, parce que les délais sont plus longs au Portugal, des fois.
Ah oui, d'accord, donc t'as pas de réassort, donc
gros
billet de rareté, mais difficile. Trop bien. Ouais. Bah, ça en fait que des produits plus rares et intéressants. Ouais. Et vous produisez deux collections par an.
Ouais.
Ça ?
Ouais.
Plus ?
Ça peut changer, là. Là, pour l'instant, c'était comme ça. Après, je pense quand même que c'est pas idiot de changer.
C'est-à-dire
pour plusieurs questions, de faire une collection printemps, une collection automne, une collection hiver.
Mais c'est ce que dit Gilles Lasbord d'ailleurs, qui est le DG de Première Vision qu'on a eu dans l'épisode un épisode précédent. Il disait qu'il n'était pas forcément contre le fait de multiplier les collections si tu produisais moins parce que à chaque collection, parce qu'en fait tu étais moins en danger si tu avais une foirade en tant que marque de mode, tu risquais moins de mettre la clé sous la porte.
Là, tu vois, les saisonnalités, ça part en cacahuète complet. Là, on arrive en été, dans une semaine ou deux semaines, je sais pas, c'est les soldes.
Nous,
tu vois, il y a un truc qui est totalement incohérent, en fait, avec le truc de bosser sur deux collecs.
Il faut voir que nous, on, par exemple, là, sur une collection d'automne-hiver, on va livrer des parkas au mois d'août.
Ça rime à
rien. C'est incompréhensible, le milieu de la mode est complètement incompréhensible. On va livrer des parkas au mois d'août, on va livrer des shorts au mois de février, quoi. Actuellement, c'est comme ça. Donc, de fractionner un peu plus, c'est plus cohérent et à la fois pour les magasins parce qu'ils prennent moins de risques. C'est plus cohérent au niveau des saisonnalités. Et
ça t'amène des nouveautés, et puis c'est cool, tu vois. Et puis, c'est pas parce que tu fais 4 collections au lieu de 2 que tu fais 4 fois plus.
Ouais, bien
faut
sûr.
Juste splitter, tu vois, les tailles de collègues. Il faut réduire les tailles de collections.
D'ailleurs, nous, on pensait faire 4 collections, mais qu'à la fin, le global fasse moins de pièces.
Ouais.
Peut-être.
D'accord, ouais. Et vous avez du coup très peu d'invendus.
Ah oui,
on a très peu d'invendus.
Ouais.
Pour ce qui est de l'aspect un peu plus artistique, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas Holo, décrire l'ADN et la proposition de valeur esthétique ?
Je pense que l'ADN de Holo, c'est entre l'aventure artistique et l'éco-responsabilité. Voilà, ça se joue un peu entre les deux ou sur les deux tableaux, quoi. Voilà. Donc c'est... Après, pour leur proposition artistique, nous, on a bossé depuis les débuts avec plus de 200 artistes différentes, de milieux et de styles différents, et de médiums différents. Et du coup, on a une très large gamme, on va dire.
Et alors ça, tu peux justement nous expliquer comment ça se déroule, le processus créatif, en fait. Comment est-ce que vous allez chercher des artistes? Quelle typologie? Tu parlais de médiums différents, tu vois, mais c'est quoi le scope des médiums, des artistes avec lesquels vous avez bossé? Ouais, comment vous les repérez, tout ça, quoi.
Ça, nous, en fait, la conception d'une collection, ça démarre toujours pareil. C'est qu'en fait, on est très attaché à un thème de collection. Donc, je pense que dans les vêtements, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Mais nous, ça fonctionne un peu comme un film ou un livre. Il faut qu'on donne une thématique précise. La thématique, elle peut être sur ce qu'on veut retranscrire à un instant T, au moment où on fait la collection. Donc ça peut être, par exemple, parler d'une histoire personnelle ou en relation avec nos familles, par exemple, nos amis, nos origines ou quoi que ce soit. Ça peut être en relation avec un thème d'actualité. En l'occurrence, on a fait une collection qui s'appelait Hors Saison à un moment donné pour une sorte de critique un peu absurde aussi du milieu de la mode, hein, au final.
Ouais.
Où ça peut être basé sur juste une destination qu'on aimerait faire découvrir. Voilà. Donc c'est à peu près souvent ces trois thématiques-là. Donc on a ce thème-là que, tiens, on aimerait bien traiter ça. Et tout de suite, en fait, on voit une sorte de plan de communication. Et ça démarre tout le temps quasiment par un film. Souvent, on se dit, ah tiens, ça va faire tel film, cette thématique-là.
Tu dis un film que vous allez créer?
Ouais, qu'on va créer. Ou alors un documentaire, voilà. Et suite à cette imagerie-là qu'on a dans la tête, va en découler un mood board. Et du mood board va en découler un plan de collection. Et un plan de collection va en découler une recherche de matière, etc. Et d'artistes. Voilà, d'accord. C'est toujours comme ça que ça va se passer.
Ok. Et donc, vous avez un pool d'artistes, on va dire, en tête. Et généralement, vous venez les greffer. Parce qu'il y a quoi? Il y a un artiste par collab, il peut y en avoir plusieurs, par thème de collection.
Ah non, ah ouais.
Il peut y en avoir beaucoup, beaucoup trop, on pense. Quoi. Donc, on est sur la réduction du nombre de personnes. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre le début de Holo et aujourd'hui, la façon dont on va repérer les artistes est complètement différente. Est beaucoup plus facile aujourd'hui aussi. Donc, on est un peu dans une période où on est dans le trop-plein d'informations, d'images, etc. Donc, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est extrêmement facile de trouver des gens. Surtout quand on aime un style graphique ou qu'on aime quelque chose, on va toujours nous proposer des choses qu'on aime. Donc aujourd'hui, ça se passe. Il y a une partie de cette recherche d'artistes-là qui passe par les réseaux sociaux où on va vers des styles graphiques qui nous plaisent, où on se dit, tiens, on pourrait bosser avec lui, quoi. Et on pourrait bosser avec lui sur cette thématique parce que son style s'adapte, parce que ce qu'il a déjà fait, ça peut coller, quoi.
Et comment ça marche, votre binôme, créativement parlant? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a plus cette casquette de DA?
Non.
C'est des rôles un peu...
Nous, t'as jamais eu ce truc-là de plus ou pas plus. Non, on a vraiment le même rôle là-dessus.
Même en termes de business, c'est-à-dire que dans la gestion de la boîte et tout, vous avez pas de casquette?
Je pense que
c'est très freestyle.
Sur l'aspect un peu créatif, on se complète. C'est-à-dire que souvent, je vais apporter le thème de départ avec un peu une imagerie. Il me dit, ah ouais, tiens, ça c'est bien, ça peut le faire. Ensuite, on bosse ensemble sur l'aspect collection. Et lui va récupérer la fin avec la relation avec les artistes.
D'accord.
Et la confection. Du coup, c'est un peu un truc où au final j'amène un peu le début et puis finit sur la fin avec où on travaille aussi au milieu tous les deux, quoi. Ouais.
Et comment ça se passe du coup la collaboration avec l'artiste en termes de droits? Est-ce que c'est un peu comme un label ou une maison d'édition où vous leur payez des royalties ou vous leur payez un cachet pour un
alors,
dessin?
Alors ouais, c'est ça. Ça va dépendre des artistes. T'en as certains où tu payes un cachet pour l'utilisation d'un dessin sur une durée.
Mm-hmm.
Genre
droit d'exploitation, quoi.
Droit d'exploitation sur la durée d'une collection. Et sinon, tu as des artistes où tu vas payer des royalties. Souvent les gros artistes, tu vois, qui préfèrent bosser comme ça.
D'accord.
En sachant que nous, pour que ça se renouvelle à toutes les saisons, on achète les droits souvent que sur une seule collection. Donc, dans tous les cas, il y a assez peu de chances que tu le retrouves après, quoi. C'est... C'est ça. On l'a fait.
Ouais, ce qui en fait des séries presque numérotées, enfin en tout cas limitées. Ouais. Ou...
Dans tous les cas,
95% ou 99%, ça ressortira pas.
Et du coup, je sais pas, vous avez des exemples de collabs passés à nous, dont vous pouvez nous parler, des, je sais pas, des trucs hyper différents.
Bah déjà, on peut parler de gens, parce que la première collab qu'on a fait avec un artiste illustrateur de base et peintre aujourd'hui qui s'appelle Jean Julien, c'était en 2015, non ?
Ouais, ouais. Comme ça, non ? Ouais, moi j'aurais même dit avant. J'aurais dit avant, parce que c'était là où on avait fait une pattern avec lui.
Non, c'est quoi, mais les premiers, c'était ça datait de la trappe rêve, hein, tu sais.
Ah, ça, c'était T-shirt.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, mais la trappe rêve,
c'est avant encore.
C'est 2011.
Ouais. 2011. Et donc, du coup, ouais, lui, c'est vrai que c'est un illustrateur qu'on a rencontré à la base dans le cadre d'une expo qui était montée par une galerie dans le 11e qui s'appelait la trappe rêve. Et en fait, on nous avait demandé d'être partenaire de l'expo. Voilà, on avait fait les t-shirts et c'est la première fois qu'on a rencontré donc cet artiste-là avec qui on s'est bien entendu et qu'on a fait ensuite plusieurs collections capsules avec lui. Et il s'avère que lui, sa notoriété s'est énormément développée depuis.
Et c'est quoi comme type de dessin ?
C'est assez illustratif, type...
C'est un peu dans la même veine qu'un Raymond Savignac, mais en un peu plus moderne. Mais toujours, en tout cas, sur la partie illustrative. Parce qu'en peinture, c'est plus proche de David Hockney.
D'accord, ah oui.
Dans ce qu'il peut faire dans la peinture. Mais par contre, en termes d'illustration, c'est cartoonesque. C'est
très BD.
Donc figuratif et avec des couleurs.
Ouais, mais souvent, il y a un petit message, un petit truc humoristique quand même derrière. Sur le début de Jean, ça a vraiment été ça qui l'a fait aussi se développer, quoi. Et
t'as tout le temps, il va tout le temps s'exprimer sur un fait de société, sur, tu vois, il y a tout le temps un message.
Il va s'exprimer sur un fait de société aussi. Ouais.
Derrière toutes les illustrations, il y met un message tout le temps.
C'est lui qui avait fait les illustrations pour Charlie Hebdo quand il y a eu l'attentat, quand il y a eu les attentats, même après, je crois, au Bataclan. Hein. Donc c'est vrai que c'est. Et puis après, nous, on le connaît aussi parce qu'en fait, il a une grosse histoire avec Nantes. Et en fait. Il a redesigné différents bonhommes en fait à l'intérieur du jardin des plantes et il a une vraie histoire avec cette ville là et donc voilà, je l'ai vu il y a deux semaines à Nantes. Putain.
Et dans ce cas, vous lui donnez carte blanche sur une collection, sur une seule pièce, comment ça,
ouais,
ça marche?
Enfin, les dernières fois où on a pu bosser avec lui, je pense que la dernière fois qu'on a travaillé avec lui, c'était en 2017 et la collection elle s'appelait Dimanche. Et c'est là pour le coup, il avait carte blanche, tu vois. Bon, c'est quand même géré en binôme, hein. Tu vois, on en parle avec
lui. Ouais, tu lui donnes des indications. Mais parce qu'il va créer un design pour vous.
Ouais.
C'est pas utiliser quelque chose qu'il a déjà.
Non. Là, c'est vraiment de la pure création. Et tu vois, la thématique Club Dimanche, c'est même lui qui l'a amené. Là, pour le coup, il avait vraiment... il avait cette envie-là de faire une collecte sur le dimanche, un peu, tu sais, où t'es en mode, tu sais pas trop quoi faire chez toi, t'es un peu enfermé. Et donc, il avait fait un chien qui est devant son PC. Tu vois, il avait fait...
Un film d'animation aussi, avec son frère.
Donc, vous, comment est-ce que, de votre côté, vous nourrissez son processus créatif et comment est-ce que vous racontez tout ça à votre communauté, à vos clients? Ça passe par des emails, sur les réseaux. Vous aviez parlé de films à chaque collection aussi.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites de votre côté?
Bah, soit après, quand on met en avant une collection, soit tu vas avoir une vidéo qui est faite autour de la thématique de la collection, soit un shooting photo.
Et donc ça, la vidéo, c'est vous qui faites? Enfin, ouais, concrètement...
Non, on passe par des gens de notre réseau pour faire les...
C'est pas nous qui faisons la vidéo.
Les vidéos, on
va leur... Par contre, toute la trame, tout le scénar de la vidéo, c'est nous.
D'accord.
Ouais.
Et donc après, ça s'est balancé sur votre site internet. Il y a tout l'historique des collabs que vous avez faites, ou en tout cas une bonne partie.
Ouais.
Ouais. Et puis sur les films, ils sont tous trouvables aussi.
T'es un Vimeo.
Sur Vimeo, YouTube et tout ça, quoi.
Et est-ce que vous... Aujourd'hui... Vous vous décrivez comme une marque de mode, du coup, avec ça? Ou est-ce que vous êtes plutôt un label de création? Vous êtes...
Je pense qu'on est une marque de mode, dans le sens où, principalement, ce qu'on vend, c'est des vêtements. Après, clairement, notre processus créatif, il est dans beaucoup, beaucoup d'autres choses que de la mode. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on n'est pas... Je ne vais pas dire qu'on n'est pas... on n'est pas intéressé par la mode, mais on est intéressé par la création en règle générale. Donc, si on devait aujourd'hui faire peut-être qu'une marque de mode, peut-être qu'on arrêterait, peut-être. Parce que c'est pas que ça qui nous intéresse, c'est tout ce qui va autour, en fait. Les sujets qu'on veut traiter, des gens qu'on veut rencontrer, des récits qu'on veut raconter suite par rapport à la thématique aussi. C'est comme monter un magazine. Voilà, on nous donne une thématique, il faut suivre la ligne directrice, quoi.
Ouais, c'est presque un prétexte, quoi. Disons que le vêtement, ça vous permet de dialoguer avec plein d'autres...
Ouais, tout à fait.
D'autres types de...
Ouais, c'est à peu
en
près
fait,
ça.
En fait, le vêtement permet de faire exister Holo en tant que label créatif, tu vois. C'est un peu ce délire-là.
Et en dehors d'Instagram, effectivement, où il y a beaucoup d'illustrations, vous, aujourd'hui, c'est quoi votre rapport culturel personnel et votre rapport à l'art? Est-ce que ça passe par des expos, ça passe par des films, par des bouquins? Ça a peut-être évolué aussi
Par tout ça.
Ouais.
Bah, de toute façon, c'est... Ouais. Après, tu...
Toi, tu vis à Paris. Pour contextualiser, Mathieu, tu vis à Paris. Donc, à Paris, ça passe par ça.
Ouais, moi je vis à Paris et en plus nous on a la chance d'avoir la boutique, tu sais, qui est rue de Montmorency, qui est vraiment dans un coin où il y a toutes les galeries d'art contemporain sur allez, 1 kilomètre aux alentours, tu vois. Donc moi je peux me faire toute la journée, me faire tous les vernissages tous les mois, je me fais toutes les expos, mais parce qu'en fait ça me fait kiffer, tu vois.
Je viens d'avoir une idée, mais ceux qui n'ont pas encore fait un tour sur le nouveau site The Good Goose, on a créé un partenariat avec Mapster et on a différentes étiquettes thématiques et il faudrait qu'on se fasse la liste des galeries recommandées par Holo ici à Nantes.
Ah mais je suis chaud.
Bah, vas-y, on va faire ça. Et toi Valentin, parce que Nantes n'est pas en reste artistiquement parlant, dans un autre genre, mais c'est ultra riche.
Ouais, carrément, c'est ultra riche et c'est peut-être trop riche même par rapport au temps que j'ai disponible. Mais ouais, il se passe tout le temps trop de choses dans plein de domaines.
Nantes, c'est une ville qui bouge de ouf hein, sur le
artistique, culturel. Culturellement, ouais. C'est très très dense. Hein, donc,
ça fait combien de temps que t'es là-bas?
En tout, j'ai cumulé. J'y suis allé pendant plusieurs périodes de temps différents. Là, ça fait 4 ans que je suis revenu. Et en tout, j'ai cumulé plus de 10 ans ou 11 ans. Ouais, je connais bien la ville. J'ai bien vu son développement aussi.
Et sachant que tu viens pas du tout de là-bas. Donc au départ, c'est juste...
Non, je viens d'ici.
Tu t'y es baladé?
Non, à la base, en fait, c'était que mon ex, elle avait été prise aux Beaux-Arts de Nantes. C'est comme ça que j'ai atterri pour la première fois. J'y suis retourné ensuite par besoin de quitter Paris aussi. Et puis, je suis revenu encore après pour un peu les mêmes raisons, mais avec des enfants. Du coup, c'était pour... Mais ça a toujours été pour quitter Paris, pour aller plus près de la nature, quoi.
Alors, avec donc ces deux villes dans lesquelles vous êtes, on va parler des boutiques physiques, mais vous en avez dans les deux endroits, vous êtes distribué un peu partout en France et partout dans le monde. Vous faites des fringues pour certaines qui sont classiques et d'autres qui sont beaucoup plus expressives. C'est qui le client ou la cliente type Holo? Il y a qui dans votre communauté?
Ça, c'est une bonne question.
Ouais,
c'est une bonne question.
Ça,
qu'on, tous les jours,
c'est une question parce qu'on n'arrête pas de se la poser et on n'arrive jamais à y répondre.
Les fameuses personas. Mais est-ce qu'il ne faut pas en mettre au feu le concept de la persona?
Moi, je sais que nous, on n'en a rien à foutre.
Je pense que c'est...
Parce que, par exemple, avec The Good Goose, moi, c'est toute personne qui s'intéresse à la mode et l'écologie. Donc, autant dire que c'est vaste et que cette question, je l'ai abandonnée.
Tant que tu rentres dans la boutique et que tu kiffes les sapes, t'es client Holo en fait, tu vois, tu fais partie de la famille Holo et puis basta. On n'a jamais voulu définir une cible ou chercher à définir une cible, on n'y arrive pas et on voit de toute façon ça plaît limite à tout le monde et c'est chambé, tu vois.
On sent que ça fait travailler Valentin quand
après
même.
Non, après ça peut être parce que tu t'intéresses à l'art, mais ça peut être aussi parce que tu t'intéresses à la mode responsable, ça peut être aussi parce que juste t'aimes bien l'illustrateur ou même pas l'illustrateur, ça se trouve juste le vêtement que tu vois en fait. Donc après je dirais quand même que la clientèle Holo souvent ça commence quand même à partir de 25 ans pour des raisons aussi budgétaires,
de pouvoir d'achat,
voilà, pouvoir d'achat. Et après j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite après d'âge. Des fois il y a des parents qui viennent avec leurs enfants acheter, donc c'est... Et puis des fois c'est le père qui fait découvrir à son fils, donc c'est...
Vous avez déjà fait des éditions kids?
Ouais,
avec Jean,
ouais.
Justement,
ouais.
À l'époque, ouais.
Ouais, sur Club Dimanche, justement, on avait fait tous les vêtements pour adultes, on les avait aussi fait pour les enfants.
Et là, on va faire aussi pour la rentrée, au mois de septembre. On va livrer normalement des boutiques avec des t-shirts pour enfants, qui est lié à notre...
qui est lié à la thématique.
À la thématique de notre prochaine collection, voilà. Et où on va reverser l'argent à une asso, parce que c'est lié à la thématique et au travail qu'on a fait avec une école primaire.
Et alors, si on recentre sur votre expérience, enfin l'expérience de vos boutiques, donc à Nantes et à Paris, est-ce qu'il y a des différences quand même en termes de comportement shopping et de profil de clients ?
Moi, je dirais
entre
oui.
Paris et Nantes, tu
ouais.
veux dire ?
Ouais, oui. Moi, je dirais
c'est intéressant
oui.
parce que ça conditionne vos boutiques, mais on va en parler après de la façon dont vous les avez créées.
Ouais. Après, la boutique à Nantes, nous, elle n'a que 2 mois. Donc, j'essaie de tirer un bilan de ça. Mais c'est vrai que je pense qu'à Paris... Déjà, la boutique, vu qu'elle est à Rambuteau, il y a beaucoup de touristes qui passent. Ensuite, on est dans une petite rue où globalement, on a, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui rentrent, mais qui du coup, du fait que ce soit des touristes ou du fait que ce soit des gens qui habitent dans le troisième et qui ont un pouvoir d'achat qui est plus important, ou alors qui viennent du fin fond du 17e et qui sont arrivés dans le 3e, qui ont mis 40 minutes de métro pour venir et qui se disent bah, « je suis arrivé là, maintenant j'achète ». Et donc du coup, les gens qui viennent, souvent ils achètent. C'est le cas, quand dès que tu pousses la porte, tu achètes souvent. À Nantes, c'est vraiment différent. C'est que c'est sur un axe qui est quand même plus passant, que tout est à 5 minutes à pied quand même. Qu'il y a plus une part de gens qui se baladent, et même si tu connais la marque, qu'est-ce qui va te presser à acheter un produit aujourd'hui plutôt que demain ou dans un mois, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent et moins de conversion. Voilà. Donc après, et après, sur la clientèle, donc il y a un peu moins de touristes. Et voilà. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent la marque à Nantes de par le passif qu'il y a de Holo à Nantes. Voilà.
Et alors, vos boutiques, celle de Nantes, elle est hyper récente. Elle est conçue complètement différemment de celle de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Quel est l'esprit ?
Bah, c'est la boutique de Nantes, déjà, contrairement à celle de Paris, elle a été ouverte, elle a été réfléchie. On a eu le temps, on a eu l'argent pour pouvoir mettre des travaux, etc. La boutique de Paris, si tu veux, c'était limite au départ un bureau showroom.
Ça a ouvert quand, à Paris ?
Il y a 2016.
7 ans. Il y a 7 ans. Donc, tu vois, c'était pas du tout un concept de « on va ouvrir une vraie boutique en faisant des beaux travaux, etc. » Donc, la boutique de Paris, c'était un peu mi-figue, mi-raisin au départ. C'était pas forcément pensé comme étant une vraie boutique. La Nantes, c'est pensé totalement différemment parce que déjà, tu as les bureaux au-dessus. Donc, c'est vraiment une vraie boutique en bas. Alors qu'à Paris, tu as la boutique, tu as les bureaux derrière. Et tu le vois, quand tes clients, tu rentres, tu vois qu'il y a les bureaux au fond. Et donc Nantes, ouais, on a eu plus de temps pour bosser le shop. Et on a été d'ailleurs aidé par Aurélie, qui est scénographe, tu vois, qui nous a fait une vraie, qui a vraiment taffé toute la partie, tu vois, scénographie, archi d'intérieur. Donc non, ça a été beaucoup plus bossé.
Après, je dirais que dans les deux endroits, c'est des espaces un peu mixtes, c'est-à-dire qu'à Paris, il y avait quand même la boutique donc, qui est devant, qui reste quand même une boutique derrière, séparée par une verrière des bureaux, et en sous-sol, parce qu'on avait, fait des travaux dans le sous-sol aussi, un showroom qui est resté jusqu'à l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était le showroom Holo, c'était au sous-sol.
Tu veux dire pour la presse et tout ouais. ça, quoi vous, ouais.
Là
ouais.
Même
vous
les magasins étrangers, ouais. quand ils venaient voir directement.
Vous n'avez pas d'agence ERP ? Vous n'avez jamais eu d'agence RP ?
On en a eu un moment. On en a eu une pendant 2 ans.
Et plus dirais. Maintenant ?
Non.
Ah, maintenant, en fait, ça se fait tout seul avec le réseau historique.
Je pense aussi que tu as ça. Et puis,
on a changé la stratégie un peu.
Et puis en plus, la presse papier, on payait une agence RP. Le souci, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir de paru, tu vois.
Ah ouais ?
Ah ouais.
D'accord.
Je pense que les journalistes n'étaient pas forcément intéressés. Et puis en plus, on est une marque de mode homme. Enfin, on était très homme. Et tu vois, des supports papier mode homme, il n'y en a plus des masses. Donc, je pense que c'était compliqué pour elle d'arriver à nous faire quelque chose, tu vois, à ce niveau-là. Et on ne s'y retrouvait pas.
Après, la presse papier arrêter. A beaucoup souffert. Et c'est vrai qu'on ne se convenait pas d'avoir que des pages produits.
Ça nous suffisait pas.
Ou alors un article ou deux par, par saison, quoi. C'était pas,
c'était mais
pas
c'est, si c'est sûr que c'est en fait, en plus, la marque est tellement riche dans ce qu'elle a raconté que c'est hyper compliqué d'arriver à faire passer les messages.
Ouais, je trouve aussi,
ouais, ouais, sur c'est... une page de pub. Ouais.
Puis, mais tu, mets, part... mais tu vois, c'est ce qu'on comprenait pas, nous, surtout quand on a eu une agence RP, c'est ça, c'est que tu avais énormément de contenu. Et on s'était dit, mais les journalistes, on ne comprend pas pourquoi ils sont pas. Qu'est-ce qui les freine, vu le contenu qu'on peut leur amener, tu vois. Et je pense que ça aurait pu faire des articles super intéressants, mais non. Donc,
bon. Ouais, bah, y a quand même une paupérisation du contenu global. Hein, fin, puis avec, et quelque part, ce que vous avez fait, c'est un peu de l'influence malgré vous. On a bossé avec des artistes qui probablement étaient les ambassadeurs aussi des fringues auxquelles ils participaient. Donc c'est assez smart. En fait, c'est une stratégie marketing qui n'était pas pensée comme telle, mais qui a probablement dû être opérée comme ça.
Bah en tout cas, c'est sûr qu'à la base, ce n'est pas pensé. Tu ne te dis pas, on va bosser avec des gens pour que ces gens-là communiquent ensuite. Après, c'est ce qui se fait aujourd'hui, bien sûr, dès qu'on fait des collabs avec des artistes. En plus, bah après, nous, tu sais, on met les artistes énormément en avant.
Ouais, ouais.
Tu vas avoir des articles, on fait des interviews. Enfin, tu vois, on aime leur travail, on se démerde pour mettre leur travail en avant.
Et en plus, vous parliez de gens qui étaient, enfin, c'est entre guillemets pas une notoriété par accident, mais en tout cas, vous êtes allé chercher à l'époque où il était beaucoup moins connu. Et aujourd'hui, vous travaillez avec des artistes de toute envergure de notoriété.
Ouais, oui. Ouais, ouais. Ça a toujours été le cas, quoi. C'est même dans les expos qu'on a fait, c'était des. Ça pouvait être d'un étudiant jusqu'à quelqu'un qui est reconnu vraiment sur la scène internationale, quoi. C'est pas. On n'a pas fait de distinction entre les gens.
Mais c'est encore. Et c'est comme ça. C'est toujours comme ça aujourd'hui.
On se base sur le style graphique et pas trop sur la notoriété.
Ouais. C'est pas du tout un truc qui nous importe.
On revient sur cette notion
sur Nantes,
d'expo.
Ouais.
Ah non, oui, mais non, surtout, tu viens de dire expo. Mais... Okay. Ouais, ouais, on reprend après sur la boutique parce que j'ai plein de questions, notamment Céno et tout. Mais tu viens de dire expo. C'est des expos physiques que vous avez organisées, que vous organisez. Comment ça se passe?
Des expos. Ah, ouais.
On avait fait des expos itinérantes déjà dans différents lieux. Donc ça, on en a organisé plusieurs qui ont plutôt bien fonctionné à l'époque, même bien avant tout le tumulte des réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans tous les cas, il reste aussi de façon récurrente des expos à la boutique de Paris, qui est un lieu qui s'adapte quand même assez à ça, de par l'espace et par la disponibilité des murs aussi, on va dire. Voilà, sur l'aspect expo, c'est...
Ouais, ouais. Après, on aurait aimé pouvoir faire plus. Je pense qu'on sera amené peut-être à le faire, tu vois, à organiser des vrais expos. Mais dans ces cas-là, si on le fait, on louera carrément un lieu dédié, tu vois. En plus, on ne fera pas ça dans une boutique. Mais à Nantes, on a la chance de potentiellement pouvoir, tu vois, avoir un local en loc pas très loin du shop et pour pouvoir justement organiser, tu vois, des vrais expos.
Après, on est partenaire de galeries aussi.
C'est ça. Et puis après, même à Paris, tu vois, on est pote avec certains galeristes. Enfin, tu vois, on arrive à gérer quelques petits événements en commun, etc. Mais ça serait bien qu'on puisse plus le faire. Sauf qu'à un moment, tu vois, le
on
temps...
peut pas être partout.
Le temps, ouais.
Ça me fait penser que si vous organisez ça, il faudra qu'on l'ajoute, qu'on le mette dans la section du calendrier, qu'on mette un peu de... Enfin, qu'on tienne au courant notre communauté sur le fait qu'il y a une expo ou un happening.
Ouais.
Et donc, les happenings qui se passent aussi à Nantes, mais on déroule sur la boutique.
Ouais. La boutique, en fait, à Paris, c'est... j'avais l'aspect showroom qui était en bas, que je n'avais pas fini. En fait, on avait aussi une partie où on avait décidé au début, donc ça a tenu un temps, de faire un petit studio photo. Donc, c'était un espace à Paris quand même qui était réparti en 4 lieux différents, répartis au même endroit. Donc, il y avait la boutique, les bureaux, le showroom et un petit studio photo. C'était ça, c'était comme ça que ça a été réfléchi.
C'était la caserne. Voilà. Avant la caserne.
Et à Nantes, c'est un peu similaire aussi parce qu'en fait, on a la boutique en bas, donc là, qui a été extrêmement réfléchie, qui a été... où on a poussé le processus pas le plus loin, mais en fait, moi, je suis vraiment à 100% satisfait de ce qui a été fait à Nantes, de par les artisans qu'on a trouvés.
Mais raconte-nous un peu en détail, tu parlais de c'est quoi, Stéphanie, la personne
Aurélie, c'est une copine. Ouais,
La Céno, du coup, c'était quoi vos prérogatives? Tu vois, tu lui as demandé quoi? Enfin, comment vous avez bossé ensemble concrètement?
Elle est scénographe et architecte d'intérieur. Donc, je la connais depuis très longtemps. Voilà, c'est une bonne copine à moi de Nantes. Et en fait, je lui ai demandé si elle était intéressée pour bosser sur ce projet-là. Et en l'occurrence, j'avais, après en relation avec Mathieu, on avait beaucoup de souhaits par rapport à l'univers à donner à cette boutique-là. Et aussi, donc, que ça soit un univers avec où on puisse se déplacer facilement, qui soit assez aéré, une place à l'artistique, donc avec un mur artiste énorme, avec où on se sent au final un petit peu comme dans la nature, qui laisse place à l'évasion, des artisans locaux qui travaillent avec des matières responsables, voilà, et que la boutique en bas, ça puisse se coordonner avec les bureaux qui soient en haut, et qu'on se sente aussi bien à travailler en haut. Parce que c'est très important, au final, on va pas tout miser sur le commercial, mais aussi sur le bien-être des gens qui travaillent. Et donc, en haut, ça puisse aussi s'adapter à ces thématiques de nature, d'évasion et de bien-être. Et donc, du coup, on a travaillé avec différents artisans, dont certains que je connaissais avant, par des anecdotes de vie, toujours, et qui m'a amené à travailler avec eux, là, sur ce projet. Donc du coup, on a fait appel à un ferronnier, à un menuisier, à un designer. On a fait atelier de deux filles qui faisaient des meubles design avec des carreaux de céramique recyclée. Enfin voilà, différents trucs.
Voilà. On va mettre des photos dans l'article associé au podcast, parce que vraiment, à défaut de pouvoir y aller tout de suite, en tout cas en ce qui me concerne, mais non, ça a l'air très, très
du
chouette.
Du bois déclassé, plein de trucs.
Et vous l'avez conçu aussi, donc on parlait à l'instant des expos, mais comme un lieu de vie, parce qu'il y a des happenings.
Tout à fait, il y a ça. Il y a aussi, devant juste après la vitrine, il y a une petite tablette, en final, où on peut prendre un café. Voilà, on peut se poser pour lire un livre, soit parce qu'on attend quelqu'un qui est en train de regarder les vêtements, soit même nous, en tant que membres d'équipe, on peut se poser là pour travailler, quoi. Donc on est face à la vitrine, face à la rue. C'est assez agréable. On est posé sur des rondins de bois, donc c'est assez drôle. Et après, sur l'aspect événement, oui, donc là, on a la fête de la musique qui arrive, c'est le 21, où toute la semaine de la fête de la musique, j'ai un pote disquaire qui va venir passer des... Il a fait une sélection de vinyles en relation avec la thématique de collection, donc vinyles qui seront écoutables dans la boutique et vendus dans la boutique. Et le soir de la fête de la musique, il y a un groupe de musique qu'on connaît très bien qui va venir jouer du haut du balcon des bureaux. Voilà. Et s'ensuit après un DJ set et puis un apéro en bas, quoi. Voilà.
Et ça, donc ça, c'est un exemple d'événement. Mais tu m'as parlé aussi, alors c'est peut-être pas déjà le cas parce que ça fait 2 mois que c'est ouvert, mais de concepts un peu de café philo, enfin de moments d'échanges sociaux qui tournent pas que autour de la consommation du vêtement.
Voilà, ça a pas été vraiment mis en place pour l'instant parce que ça fait que 2 mois, mais on va dire que Nantes, c'est un peu moins adapté que Paris à faire des expos, parce que on a un mur qui est gigantesque avec une œuvre, donc ça nous a bouffé une partie de la place. Mur qu'on va renouveler régulièrement, mais du coup, voilà. Donc, c'est pas adapté aux expos. Et donc, on avait vu qu'on a l'habitude de faire des interviews de différentes personnes. Donc, récemment, j'ai fait un interview sur la pollution numérique, on va dire. J'ai fait un autre truc sur l'art au temps des réseaux sociaux avec un artiste que je connais. Et donc, du coup, c'est des thèmes qui sont très liés à la période dans laquelle on est. Et faire intervenir justement des gens de notre réseau qui sont un peu spécialisés dans quelque chose, ou alors où on aimerait bien avoir leur point de vue parce que ça fait 15 ans qu'ils font ça et qui peut être lié à la société, mais donc forcément aussi peut-être à notre activité. Mm-hmm. Les faire intervenir lors d'un apéro où ce serait un échange et qu'ils puissent échanger aussi avec qu'on soit 10 ou 50 avec les gens qui sont là autour d'un apéro. Je pense que sur une heure et demie d'apéro, on ressortirait moins bête que quand on est arrivé, quoi. Voilà. Et donc, c'est plus un espace, voilà, d'échange à l'intérieur de la boutique. Mais ça reprend un peu, je trouve, tout ce qui a été fait sur Holo depuis 10 ans, parce qu'il y a l'espace expo. Mais à Nantes, on projetait certains films qu'on faisait, on les projetait dans les bureaux avec une centaine de personnes. On faisait des concerts à l'intérieur des bureaux. On faisait devenir des groupes de musique, c'est un peu dans la continuité de ça au final.
Oui, bien sûr, c'est hyper cohérent en plus avec la richesse de votre univers, le partage des valeurs, mais sans que ce soit militant, affiché comme tel. Enfin, ça permet d'ouvrir des sujets de société, de se réunir autour de...
C'est ça, je pense qu'on pense quand même tous à peu près la même chose. Ouais.
Ouais.
On est... Voilà, c'est...
Politiquement, tu veux dire ?
Ouais, enfin, ouais, je pense politiquement, on pense tous à peu près la même chose, au point où on va se dire, ah ouais, y a des gens qui pensent ça. Bah ouais, mais c'est juste que nous, on traîne dans des microcosmes, mais en fait, on pense tous à peu près pareil, quoi. Donc, on se aperçoit pas qu'en fait, il y a d'autres gens dans la population qui peuvent penser vraiment autrement.
Voilà. Est-ce que vous avez... Une politique, une gouvernance particulière par rapport à vos employés. Donc, vous avez parlé du fait d'avoir des bureaux ouverts à proximité de la boutique. Enfin, vous partagez beaucoup de votre quotidien sur les réseaux. D'après ce que je comprends, alors management, j'en sais rien, mais entre vous, il n'y a pas vraiment ni de hiérarchie, ni de règles de chasse gardée sur des territoires, l'un qui fait plus ci ou l'autre ça. Est-ce que par rapport à vos employés, je sais pas, il y a des choses qui diffèrent d'une entreprise conventionnelle ?
Entre moi et Mathieu, déjà, on est souvent d'accord sur les idées.
Ouais,
et
on est, nous, là-dessus, on est tranquille, en fait.
Et si on n'est pas d'accord, c'est une histoire de compromis. Je te lâche ça, tu me lâches ça. Ouais. Basta. Et c'est réglé en 5 minutes.
Voilà. Un couple sain.
Ouais.
Mais de toute façon, un couple qui a 17 ans derrière lui, normalement...
Ouais. Et qui, a priori, est toujours dans une joyeuse cohabitation.
Et vis-à-vis des gens qui bossent avec nous,
ouais.
Des employés, par exemple, c'est...
Mais on est, nous, on est
beaucoup les idées, nous, on est des gens sympas, quoi.
Ouais, c'est... et on est très free, hein. Enfin, tu vois, là, tu prends notre responsable commercial. Pendant le Covid, il nous a dit, ouais, les mecs, j'aimerais bien rester, mais par contre, je veux me barrer de Paris, je veux aller habiter à Bordeaux. On a fait
on l'a laissé partir à Bordeaux.
Tu vois,
ils sont globalement très libres. Et c'est vrai que la discussion est facile, quoi. Il y a pas de problème. Nous, on est... Je vais pas dire que c'est comme si tu discutais avec tes potes, mais un peu, quoi.
Et puis, on leur a toujours dit, hein, tu vois, vous avez un problème avec nous, machin, vous nous le dites direct, tu vois, on veut pas du tout créer un truc de « Ah, t'as les boss » et...
Non, ouais,
nous, tout le monde est à la même...
Après, on va boire des coups avec eux, après... Enfin, il y a pas vraiment de distinction, en fait. C'est juste qu'à la fin, c'est nous qui tranchons, quand même.
Ouais.
Donc, c'est en ça que ça reste un peu pyramidal, c'est que la décision, c'est nous qui l'avons à la fin. Mais n'empêche qu'on prend leurs avis aussi sur les collections, on prend leurs avis sur les artistes, on prend les avis sur la communication, sur un peu tout, quoi.
Ouais, et puis ça veut aussi dire que c'est toi la figure de réassurance. S'il y a une tuile, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous ou que c'est vers vous qu'il faut se tourner. Mais ça n'empêche que le management est plus horizontal et...
Ils sont tous dans la boîte comme si c'était la leur, un peu.
Ouais, c'est ça, c'est management horizontal, voilà, tu vois. Il y en a pas, tous, quoi.
C'est...
Ouais,
c'est management solidaire.
Ouais, ouais.
Et je crois que c'est toi, Valentin, qui est parti un moment. T'es parti backpacker avec
ma copine.
Ta copine,
ouais.
Ouais. Donc c'était il y a quelques années, t'avais pas d'enfant encore.
Non.
Et ça, comment ça s'est passé entre vous ? C'était OK ? T'as dit à Mathieu, vas-y, je me casse.
Ouais, en amont.
Je reviens avec plein d'idées.
Ça a été vu en amont.
Où j'avais trouvé quelqu'un pour me remplacer sur certaines tâches que je faisais. Et j'ai assuré une partie des trucs de là-bas. Après, j'étais présent quand même sur les collections, donc dans la préparation des collections. Après, c'est vrai que tout l'aspect autre que j'avais, c'est-à-dire toute la communication, j'ai rien fait, quoi, sur cette année-là, à part pondre des articles.
Il y avait Marion.
Voilà, il y avait Marion. Mais j'ai pondu juste après des articles de voyage et j'ai participé à la conception des collections. Mais c'est un peu tout ce que je faisais. Je m'arrêtais à un endroit où j'étais dans le monde et je me suis arrêté... dans un hôtel ou dans une auberge pendant tant de temps pour travailler là-dessus, quoi.
C'est quelque chose qui est faisable, je pense.
Ouais, mais qui n'est pas assez dit et pas assez montré. Donc,
en fait, parce que je pense que t'en as qui ont peur de ce genre de truc, hein. De te dire, ah putain, il y en a un qui se barre pendant un an, c'est chaud. Enfin, tu vois, moi, je pense que c'est carrément faisable.
Mais mon sujet, ouais, c'est un peu le voyage, c'est un peu comme. Là, c'est un peu plus extrême qu'Alexandre qui est parti vivre à Bordeaux, mais en soi. Qu'est-ce qui empêchait qu'il aille vivre à Bordeaux ? En fait, aujourd'hui, par le télétravail, donc là, il vient régulièrement à Paris quand même. Mais
et t'as le train.
Tant que
le
travail est super rapide. Il est consciencieux et que toi, t'as confiance, ça fonctionne.
Ouais. Et que lui, il est plus heureux comme ça. Parce que sinon, si c'est pour le garder malheureux à Paris, ça sert à rien, en fait.
Non, c'est clair. C'est une histoire de plafond de verre et d'imaginaire à changer. Mais après, je pense que depuis le Covid, la façon dont on travaille a beaucoup changé. Mais malgré tout...
C'est grâce au Covid. Hein.
Ouais. C'est grâce au Covid.
Hein, mais c'est grâce au Covid, les gens se sont aperçus qu'en fait, le télétravail, tout le monde, tu sais, toutes les boîtes, je pense, flippaient de ce genre de truc. Il va être en télétravail une journée cette semaine. En fait, il va rien faire.
Moi, je travaille très bien en télétravail.
Ouais, j'allais dire, c'est même démontré que généralement, les gens sont plus consciencieux. Ouais. Ouais.
Après, sur des thématiques, moi, je travaille très bien en télétravail si j'ai vraiment de la stratégie à faire ou des articles ou du travail de texte à faire. Vraiment, il faut que je sois chez moi. Quoi. Après, parce qu'une fois qu'on est... dans les bureaux, c'est un peu chronophage, quoi. Il y a quelqu'un qui va te demander un truc. Puis
tu vas te solliciter tout le temps.
Tu vas te perdre dans plein de petites tâches tout le temps. Et ça, c'est...
Puis je trouve que ton cerveau, moi, ça me fait pareil au bureau, mais il est beaucoup plus alerte sur les mails ou les notifs. Alors qu'effectivement, quand tu es en immersion quelque part, que ce soit dans un café ou chez toi, ben, mes plages d'écriture, elles sont... Ou alors au bureau, généralement, je mets mon casque et je dis à l'équipe, là, je suis dans un tunnel, vous ne me voyez plus, je n'existe pas. Mais ouais, tu as besoin d'un temps de concentration qui est généralement... l'espace est propice, en fait, à ça.
Il y a même, il fut un temps où on préparait les collections, mais on d'ailleurs, de complètement ailleurs.
Mais ça, d'ailleurs, c'était pas mal. Le truc, c'est que là, tu vois, pour organiser ça, tu sais que c'est compliqué.
Ouais, c'est un peu plus
maintenant, ça serait plus chaud. Mais ça, c'était un truc qui était plutôt cool. De te barrer un peu.
Sur le voyage, ça c'est bien fait, quoi. C'est possible, en tout cas, de faire ça.
Alors, je vais passer le micro à Jeanne, à ma gauche, pour les questions d'ouverture. Peut-être que d'ailleurs, l'une va être liée à ce que tu as ramené de ce voyage, justement, en termes d'inspiration artistique. Alors, justement, la question, c'est, est-ce que vous avez un coup de cœur artistique à nous partager ? Pas forcément récent. La dernière chose qui vous a marqué ?
Là, il faudrait que je me procure en fait une BD qui s'appelle Plou Errant. En fait, c'est l'histoire vraie d'une fille qui est dessinatrice au final et qui est partie de son village en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, et qui est partie jusqu'à Téhéran.
D'accord.
Donc voilà. Et ça a l'air super bien dessiné. Je pense que j'aime bien aussi. Je n'aimais pas du tout quand j'étais petit, mais les romans illustrés comme ça, je trouve ça hyper sympa. Voilà, à lire. Donc ça, si on doit parler de ça après.
Ouais, et moi, un coup de cœur artistique, c'est super compliqué parce que j'ai l'impression d'en avoir 15 par jour. Donc je pourrais, là, si je dois t'en citer, ça va mettre 30 plombes. J'ai un seul et j'arriverai pas là. Sur l'instant, là, un seul.
Peut-être une roco de galerie cool ? Pas loin de la boutique Holo, comme ça on fait d'une pierre deux coups.
Bah chez les potes, il faut aller chez Semioz. Voilà, chez Semioz, rue Quincampoix, qui est une galerie d'art contemporain, où déjà les gars, et notamment Benoît, qui est le boss, l'équipe est très sympa. Et puis il met en avant vraiment des artistes, pour le coup, du monde entier et de tout style confondu. Et c'est une galerie que j'aime beaucoup.
Et moi, je dirais aussi, en plus, peut-être Pedro aussi. Pedro, on a un pote qui nous a fait justement le mur à Nantes.
Pedro Richard.
Voilà, depuis très longtemps. Et au final, qui correspond complètement à l'état d'esprit que je me fais de... En fait, c'est un super bon exemple que tu peux réussir dans le monde de l'art en ayant un état d'esprit super cool, en étant assez peu sur les réseaux sociaux, en étant juste un très bon communicant de la vraie vie et de derrière autre chose qu'un écran, quoi. Voilà. Et du coup, j'aime bien sa philosophie, comment son mode de vie et la façon dont il est, voilà. Et ses œuvres sont extrêmement belles, voilà.
D'accord.
Ah, et rien à voir avec un coup de cœur artistique. Mais si jamais, je sais pas quand est-ce qu'il va apparaître le podcast, mais si jamais vous êtes dans le coin de Bruxelles, allez, c'est de fin juin à, je pense, minimum septembre, à Bruxelles, au MIMA, qui est le musée d'art contemporain de Bruxelles, il y a tout le musée qui est réalisé là par Jean. Donc ça va être full Jean Julien, expo entière dans tout le musée. Voilà. Et je pense que c'est à voir, à mon avis, ça va valoir le coup d'œil.
C'est un événement à noter. Pour le prochain podcast, vous aimeriez entendre qui ?
Dans le milieu de la mode ?
Ici. Mode, entrepreneuriat, création au sens large. On a aussi des psychologues de la mode, on a des experts. Franchement, c'est assez large.
Putain, ça, j'aurais dû la lire, la question. Hein. Pour le coup, j'aurais trouvé, c'est ça qui est ouf. À un moment, je m'étais dit, putain, j'aimerais trop d'ailleurs écouter un podcast de ce mec-là.
Merde. Ça peut être un de vos amis.
Moi, je pense que Mehdi de Savoie, c'est bien, déjà.
Ouais, ouais, Mehdi, ça pourrait, Mehdi, ça pourrait être cool.
Quelqu'un qui sort un peu des sentiers battus comme ça et qui a voulu créer un projet vraiment responsable, quoi. Vraiment, vraiment, avec une bonne éthique, avec, en dehors de tout schéma de communication, en dehors de tout ça, juste de...
Faudrait que vous fassiez un voilà. binôme et que vous les interviewiez ensemble. C'est Mehdi de Savoie et Thomas d'Isakin.
D'accord.
Parce que les deux en plus sont très potes
c'est
et ça peut. Ouais, Isakin, c'est une marque parisienne de mode. Et Savoie, c'est une marque de chaussures de basket. Mm. Et
Made
pareil,
in,
ils sont
Made in Africa,
ouais, fabriqués en Afrique.
Accepté.
Et le duo ensemble, ça peut valoir le détour.
Ok.
Voilà.
On prend note. Dernière question. Est-ce que vous avez en tête une référence ou une rencontre qui a changé votre vie professionnelle?
Ouais, moi oui. Moi, c'est un prof quand on était en BTS communication qui s'appelait Monsieur Furt. Et c'est un mec qui m'a fait passer de timide à plus du tout timide en 2 ans.
C'était quoi sa recette?
C'était Sorosina au tableau, tous les jours. En fait, il a repéré le mec le plus timide de la classe le premier jour, je pense, tu vois. Et après, c'était allez hop, tableau, tableau, tableau. Et il m'a enchaîné. Voilà. Ouais.
Et c'était pas traumatisant,
non.
Ça a été une belle expérience.
Non. Il m'a sauvé, tu vois.
C'est ce qui fait que tu débarques dans des milieux auxquels tu connais pas grand-chose ou pas grand monde, artistique ou autre, et puis tu...
Et je m'en tape complet, ouais. Ouais. Ouais.
C'est surtout que quand on a connu, parce qu'on était dans la même classe,
tout à fait.
On l'a connu, on avait 20 ans, c'était vraiment un prof un peu dictateur, quoi. Mais
c'était
qui,
un
tu peux te retrouver au bistrot quoi
mais
en train de boire un coup et tout,
et tout ouais,
et il est mais il était très dictateur il était enfin, franchement on tremblait moi j'arrivais des fois je dormais même pas de la nuit avant d'arriver en cours le lendemain quoi mais il nous a permis en fait de nous dépasser complètement quand t'es jeune tu te dis oh là là j'ai 20 ans mais je dois aller taper à la porte de Publicis ou des trucs comme ça c'est compliqué quoi et lui il nous dit voilà enfin, je pense qu'on avait tellement peur de lui au final que ça nous a permis de nous dépasser quoi. Voilà. Et moi, il y avait cette personne-là, mais je pense qu'une autre personne qui m'a vraiment fait évoluer autant professionnellement que personnellement, c'est une personne qui a travaillé avec nous dans les premiers bureaux de Holo au tout départ, quand on travaillait dans une cave à Paris.
Chacha.
Voilà.
Ah ouais, Chacha.
Et on bossait dans une cave en terre battue. Donc c'est en lien avec le nom Holo parce que. Holo en anglais, voilà, c'est une déformation du nom anglais. Et donc, c'était une cave en terre battue où lui faisait pendre une rallonge de son appartement pour aller dans la cave. Et cette personne-là a un parcours de vie qui est vraiment pas du tout, du tout, du tout classique. Et c'est une personne qui te dit que tout est possible, tout le temps. En fait.
C'est un optimiste.
Ouais.
Ouais, c'est un profondément très très optimiste.
Et il se met zéro barrière. Il fait, tu vois.
Et moi, j'étais toujours sur le cul de tout ce qu'il faisait. C'était.
Mais t'as des exemples de ses accomplissements. Ouais,
des accomplissements de fou, quoi. Un jour, il m'a dit je suis parti à Istanbul. Je suis parti de chez moi, là, à l'époque, il habitait à Pigalle. Je me suis dit, tiens, et si j'allais à Istanbul avec 20 euros? Et il est parti à Istanbul en stop avec, je sais plus, il a dû prendre plus d'une vingtaine de voitures et il est arrivé à Istanbul avec 20 euros. Un mois après ça, je crois, il était en Normandie et il s'est dit, tiens, si je rentrais à Paris en péniche. Et du coup, il a fait du stop péniche et il est arrivé jusqu'à Paris. Et que des choses comme ça. Un jour, il s'est dit, tiens, je vais aller traverser l'Islande avec mon frère, on va vivre de la pêche. Et ils ont commencé à entamer un truc comme ça. Et c'est que, donc ça, c'est sur ses expériences. Et il a aussi des expériences entrepreneuriales parce qu'il a monté plusieurs sociétés, que à chaque fois qu'il a touché quelque chose, ça a réussi.
Chacha.
Alexandre Chartier.
Okay. Ouais, nous, on l'a toujours appelé Chacha parce qu'en fait, quand on l'a rencontré, il avait une marque de sous-vêtements en coton organique qui s'appelait Monsieur Chaleureux.
C'était une marque équitable. Ouais.
Donc nous, tout de suite, c'est Monsieur Chaleureux, Chacha.
Voilà. Et on peut le rencontrer ce personnage.
Il habite à Lisbonne, où en fait avec sa copine ils ont une marque
de sandales.
Donc ils ont racheté un atelier à Lisbonne où ils ont racheté que des vieilles machines Et donc, ils font tout eux-mêmes.
Voilà. Un autre exemple que tout est possible, quoi.
Ouais, tout est possible.
Ah, mais lui, voilà. De toute façon, c'est que ça.
Des fois, il va, parce qu'il n'a pas, de voiture là-bas, il va faire du surf et il met le surf dans le taxi. Ou alors, voilà. Mais l'un des trucs les plus fous qu'il a fait, c'était quand même qu'il a acheté un bus de l'armée, qu'il a été récupéré à Marseille. Il a tout enlevé à l'intérieur. Il ne s'y connaissait pas du tout, ni dans le bois, ni dans rien. Et il l'a refait entièrement. Il a mis une terrasse au-dessus, je crois, des panneaux solaires. Il a refait une cuisine, machin, sur un truc gigantesque, quoi. Et il est parti, d'ailleurs. Avant ça, il était parti au Portugal vivre pendant 6 mois dans un camping-car. Après, il avait refait ce bus-là, où il a vécu dans une sorte de ZAD à Nantes, là. Enfin, c'est vraiment...
C'est une vie de défi, quoi.
Ouais, c'est... En fait, je pense qu'il se
une
laisse...
Une vie de possible.
Tout est possible, quoi. Mm-hmm. Tout est toujours possible. Ouais.
Bon, alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez une idée de où et quoi est Holo dans 10 ans ? Et vous, évidemment. Mais où est-ce que vous avez envie de l'amener ? C'est quoi vos prochains projets ? Ou est-ce que go with the flow et on verra bien ?
Ouais. Go with the flow et on verra bien.
Ouais, moi, je me pose pas trop
y a
ces
pas
questions.
De, moi, fait, ça, je me projette pas du tout, en fait.
Dans tous les cas, nous, on a jamais... Si on avait voulu monter un projet qui soit un commerce florissant et
ouais,
on se fasse plein de thunes, etc., on n'aurait pas fait ça, je pense. Et d'un autre côté, ça ne nous a jamais trop intéressé. D'ailleurs, Holo n'a pas d'investisseur, Holo est en autofinancement, parce qu'on a 100% nos propres décisions, qu'on a envie d'être... enfin, voilà, qu'on n'est pas enchaîné à rien du tout, qu'on est... et donc... on n'a que 2 boutiques à nous aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y en aura plus ou pas ? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il n'y en aura jamais 50. Quoi. Ça restera toujours un petit projet d'une marque où tout le monde se sent bien pour bosser à l'intérieur de la marque et que nous aussi, on se sent heureux là-dedans. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à tout le monde le 21 à Nantes pour la fête de la musique.
C'est ça. Du haut du balcon, il faut préparer son coup parce que ça va être... c'est au premier étage, donc on va regarder en haut.
Et sur Mapster pour la liste des recos de galeries à Paris et à Nantes. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde.
Ah bah vas-y, moi je te les fais toutes.
Merci à vous.
Merci.
C'est hyper cool.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.